Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio, dernière émission pour 2017. Donc encore une fois, pour m'accompagner cette semaine, monsieur qui rush pas mal depuis ce matin, mais qui a quand même pris le temps de venir faire une dernière émission avec nous, mon collègue et ami, monsieur Marc Bouchard. Salut Marc.
Salut, oui, je rush maison, le ménage est pas fini, les commissions sont pas finies, j'ai pas fini mes cadeaux, ma belle-mère qui avait besoin de moi, bref, la journée idéale. En plus, je me chicane avec ma femme, tu sais, quand ça va bien, là.
Ouais, c'est ça. Quand que la chenoute pogne une journée, quand qu'un jour, là, ça décide que ça ira pas bien, ben, c'est ça qui se passe, puis ça a l'air que c'est aujourd'hui.
Oui, non, écoute, c'est épouvantable. Sérieusement, là, quelle journée épouvantable. Non, enfin, pas grave, on va s'en sortir.
On va espérer que ça va se replacer d'ici à la fin de la journée. Hein? Il est encore de bonne heure, on est en vendredi après-midi, là, il reste encore du temps en masse d'ici le coucher pour que ça soit une journée moins pire. Donc Marc, on va commencer avec certaines choses. Moi je veux juste dire quelque chose là, franchement, puis je n'ai pas parlé à Marc avant d'enregistrer, là, mais parfois là, l'humanité me rend tellement en maudit. Je sais pas si vous avez entendu parler, Marc, tu en as sûrement entendu parler, il y a eu un déversement de diesel sur le pont de l'île Tourte dans la région le Vaudreuil, puis dans ce coin-là. Oui. Et ils ont fermé la 40 vers l'est, donc la 40 vers Montréal, pendant un bon bout de temps. Puis le trafic était vraiment là, c'était renvoyer tout le monde vers la 20, la 30 qui est fermée, ceux qui connaissent le coin où il y avait le Flying G dans le temps, le boulevard Cité des Jeunes et tout ça. On retournait vraiment le monde avant ça. Cette tranche-là de la 30 était fermée. Puis tous les camions et tout ça, on envoyait tout le monde par la 20, passer à travers l'île Perrot où il y a des lumières, puis ça finit plus. C'est vraiment quelque chose de pas agréable. Là. Puis je suis vraiment heureux de pas être dans ceux qui ont été pris là. La partie, moi, qui m'exaspère vraiment, c'est que moi, je travaille à Ville-Saint-Laurent, puis je m'en reviens chez nous, puis je suis dans la région de Valleyfield, puis tout ça, puis je veux dire, ça m'a pris 2h45 m'en revenir à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde que ça leur tentait de regarder ce qui se passait de l'autre côté. C'était même pas notre côté qui était bloqué, c'était l'autre bord, puis ça a tellement ralenti que ça m'a pris 2h45 m'en revenir chez nous. J'ai fini à 4h, j'étais arrivé chez nous, il était 7h moins quart. Ça n'a aucun sens.
Écoute, Luc, c'est toujours comme ça.
Mais c'est tellement cave de se ralentir nous-mêmes puis de ralentir les autres en arrière. C'est zéro considération pour les autres de vouloir toujours ralentir puis voir ce qui se passe. Hein? C'est qui disait ça à la radio? Son nom m'échappe. Là, c'était le chroniqueur radio à CKAC dans le temps et tout ça. C'était Pierre Lacasse qui disait les wéreux. Il disait toujours les maudits wéreux. Ben, c'est ça. Ça m'exaspère. C'est vraiment. Il n'y avait aucune raison que ça me prenne presque 3 heures pour m'en venir à la maison. Quand normalement, là, pas de trafic, ça me prend 45 minutes. Là. Ça m'a pris 2 heures de plus juste parce que ça tentait au monde de regarder. Fait que ça vous tente-tu de prendre une maudite belle résolution pour 2018? Là? Puis quand il y a un accident, là. Continuez donc. Un, c'est pas de vos affaires, puis deux, c'est un peu comme vouloir voir le malheur des autres. Là, moi, ça m'intéresse vraiment pas. Je suis pas du genre à ralentir pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu continues ton chemin, tu t'en vas chez vous, puis regarde, laisse les autres tranquilles. Les services étaient tous sur place. Fait qu'il y a rien que tu peux faire, toi, en tant qu'être humain qui s'en va chez eux après une journée de travail pour aider. Là. Va-t'en chez vous, puis ralentis pas le trafic. Mais ça a été vraiment exécrable.
Oui, mais ça, là, tu sais, tu connais le principe du corridor de sécurité?
Oui.
Bon, regarde les bouchons que ça provoque à chaque fois.
Oui, ben
c'est pas parce que les gens ralentissent, c'est parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qui se passe et qui se fait arrêter.
Ben oui, ben ils ralentissent pour voir. Fait que tu ralentis tout le monde.
Ça marche à toutes les fois. Puis, ce qui est fascinant, moi j'ai l'occasion, à cause du travail, là, d'aller vous rouler ailleurs dans plein d'autres pays. Puis t'as pas ces éléments-là. Oui, les gens ralentissent. Écoute, moi là, j'ai déjà roulé sur une autoroute dans la région de Los Angeles, OK? Ils ont fermé, c'est des grosses autoroutes, tu vas me dire, là, ils ont comme 4-5 voies.
Oh, oui.
Ils ont fermé 2 des voies parce qu'ils ont arrêté quelqu'un, OK? Okay?
Mm-hmm.
Et arrêté comme seuls les Américains savent arrêter, là.
Ouais.
Tu sais, il y avait 5 chars de police, les guns qui pointaient, c'est une madame qui était là dans une espèce de vieux bazou épouvantable, tu sais, là, comme tu vois dans les films, là, ça avait vraiment l'air de ça, mais ça n'a même pas ralenti le trafic.
Non, c'est ça.
Écoute, les gens, ça continuait comme si de rien n'était, puis il n'y a même pas eu de ralentissement de trafic. Moi, ça m'a impressionné. Tu sais, je me disais, chez nous, là, Écoute, ça serait déjà mieux de Montréal jusqu'à Sainte-Julie si on avait ça, là.
Ouais, oublie ça, là. Arrêter sur le bord avec les fusils sortis, là. Hey, ça arrête et ça prend des photos, là. Ça prend des
Alors,
selfies
c'est
avec.
clair.
Oh, ouais, non, non. C'est...
Fait que c'est vraiment, c'est très typique de ce qu'on vit chez nous. Puis comme je te dis, c'est particulièrement vrai. Ma femme vient hors d'elle à toutes les fois qu'il y a un corridor de sécurité, puis que tu vois le gars qui te ralentit pendant des kilomètres avant. Parce qu'ils savent pas comment gérer ça, je te jure, c'est vraiment pas le fun.
Non, c'est ça.
Bref, je compatis à ton, je dirais, à ta mauvaise humeur, mon cher. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu apprends 3 heures pour aller chez vous, gars, moi, je reste à Saint-Hyacinthe. Partir du centre-ville de Montréal, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, prendre 2 heures, 2 heures et demie.
Oh.
Souvent, même au milieu de la nuit, il y a du trafic partout. Je reviens de l'aéroport des fois, puis c'est l'enfer. Alors, non, ça, je m'excuse, j'ai pas beaucoup de pitié pour toi. Je suis
Ouais,
désolé de
mais
te le dire.
c'est parce que c'est l'enfer à partir de Montréal, ça arrive sud aussi parce que tu sais, il y a plein de routes fermées et tout ça, c'est
C'est
vraiment pas
ridicule.
super, non, ouais, c'est ça.
C'est ridicule. Puis aller dans le coin de l'aéroport, avec Turcot qui a été réaménagé, avec, écoute, tu sais, l'enfer, c'est vraiment plus de fun, là, tu sais.
Non,
Il n'y a
non, non.
vraiment plus rien de drôle là-dedans, là, mais bon.
Ça donne pas le goût d'aller à Montréal. Des fois, je suis invité à des affaires à Montréal, puis j'y pense deux fois. Moi, je vais-tu vraiment y aller ou je vais-tu pas? Parce que je le sais que ça va me prendre plus de temps à me rendre que le temps que je vais passer là-bas. T'sais. Un
Moi,
aller-retour
très
à
souvent, je
Montréal,
n'y
c'est
vais
souvent
même
plus
plus.
long que ce que tu fais. T'sais.
Très souvent, je n'y vais même plus parce que j'ai pas le temps.
Non, c'est
J'ai
ça.
pas le temps d'aller perdre 4 heures de route pour aller faire une rencontre qui va peut-être durer 1 heure.
Non, c'est ça. Ça n'a
Fait
aucun
que.
sens. Mais bon. On va parler de sujets un petit peu plus joyeux. On va parler de voitures. Tu veux nous parler de tes 5 coups de cœur de cette année? 5 voitures que tu as essayées qui t'ont le plus agréablement surpris ou marqué?
Ouais, je vais dire 5 voitures abordables.
OK.
OK? Parce que, oui, c'est vrai, cette année, j'ai été chanceux. Encore une fois, j'ai eu l'occasion d'essayer des véhicules de fou, McLaren, Rolls-Royce et autrement. Mais c'est pas ça. C'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est vraiment davantage de véhicules, je dirais, plus abordables. Même s'il y en a qui sont assez chers, là, on s'entend, là, on parle pas de véhicules à 12 000 $, là.
Non,
T'sais,
mais
c'est pas juste des
pas
Nissan.
rien à 350 000 non plus, là.
Non, c'est ça. C'est pas tout des Nissan Micra, mais n'empêche qu'effectivement, c'est quelque chose donc que je veux plus abordable par choix, là.
OK.
Et la première de ça, ben peut-être ça va te surprendre un peu, c'est la Honda Civic Type R.
OK.
Cette voiture-là m'a impressionné. Impressionné parce que je m'attendais à bien des affaires, sauf à avoir autant de fun que ça à la conduire. C'est
Ouais.
aussi simple que ça. C'est une voiture parce qu'elle n'a pas le rouage intégral. J'avais peur là, qu'on vraiment ça soit pénible. J'avais peur qu'elle soit pas capable de supporter la puissance. C'est vraiment pas le cas. J'ai eu l'occasion de la conduire sur la piste et vraiment a fait un excellent travail sur la piste aussi. J'ai eu l'occasion de tester sa vraie puissance sur un dynamomètre et on s'est aperçu que Honda nous mentait un petit peu parce qu'elle fait eux autres disent 306 chevaux, mais nous, on a estimé qu'elle était capable de faire 304 chevaux aux roues.
Ouais, donc c'est plus que ça au moteur direct,
Normalement, c'est 15 à 20 %
là. Ouais.
au moteur. Fait que, donc normalement, on serait aux alentours de 350, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un véhicule comme celui-là.
Ouais.
La tenue de route est impeccable, vraiment, vraiment impeccable. Le plaisir de conduite est là. C'est relativement confortable, malgré, je dirais, le fait que les suspensions sont assez rigides. Bref, c'est une voiture qui m'a impressionné et qui est capable, effectivement, d'arriver directement en compétition avec les Subaru WRX et Golf R de ce monde.
Non,
Donc,
focus RS, ces choses comme ça, là. Ouais.
c'est sûr que la RS est plus puissante,
Ouais, 4 roues motrices et tout ça, mais
4 roues motrices aussi, donc elle a. Mais quand même, ça, c'est mon premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, ben, ça trahit un peu mon âge, c'est la Toyota Camry.
ouais. OK.
Le
Que je vais
travail.
en voir au début d'année prochaine. Fait que j'ai hâte de
Écoute, le
l'essayer.
travail qu'ils ont fait sur ce véhicule-là, là, c'est absolument fabuleux. D'abord, en termes de look, on s'entend pour dire qu'on parle d'une vraie voiture et non plus d'une espèce de char pour les pépins.
Mais on est sorti du moule, tu sais, juste. Avant, c'était comme, tu sais, t'achetais pas ça pour le design, t'achetais ça pour la fiabilité, mais là, ils ont commencé vraiment à sortir du moule pour le design, puis la nouvelle Camry est vraiment belle, là.
Elle est vraiment belle,
Oh.
elle va vraiment bien. Elle est agréable à conduire. Elle propose 10 versions quand même. Là, tu sais, t'as du choix en masse, incluant une hybride qui est super efficace, un moteur qui est vraiment le fun. Honnêtement, c'est une des voitures qui m'a beaucoup impressionné cette année. Je sais qu'il y a plein de monde qui ne jure que par la nouvelle Honda Accord. Moi, j'ai été moins emballé par la nouvelle Accord. C'est une bonne voiture et une belle voiture, là. Faut pas mal interpréter. Mais honnêtement, entre les deux, j'ai préféré la Camry et je trouve ça franchement intéressant.
C'est bon.
Troisième coup de cœur, c'est le Jeep Wrangler. Jeep Wrangler que j'aime d'amour dans toutes ses déclinaisons et que j'aime encore plus d'amour dans sa nouvelle version parce qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Ils ont réussi à en faire un véhicule qui est beaucoup plus confortable, qui demande beaucoup moins de compromis pour un usage régulier, mais qui en même temps n'a fait aucun compromis quant à ses capacités hors route, et je peux te le dire parce que je me suis fait peur comme faux. J'ai apprécié le fait qu'on ait simplifié l'usage du toit au lieu d'avoir quelque chose qui demandait avant un diplôme en ingénierie. Maintenant, on est vraiment capable de le faire assez facilement en quelques secondes à peine. Bref, honnêtement, je n'ai que de bons mots pour ce véhicule-là. Si ce n'était du fait qu'on a augmenté considérablement le prix, ce qui m'a un petit peu irrité, je te dirais. Pour le reste, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, que j'aime. Oui, il a une personnalité particulière. Oui, c'est une affaire de Jeep, puis c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, mais c'est vraiment un véhicule qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné dans sa nouvelle déclinaison. Je l'aime profondément et je suis donc très heureux d'avoir eu l'occasion de l'essayer aussitôt que ça, parce que vraiment, je trouvais que c'était un véhicule qui valait la peine.
Ok, super, c'est bon.
Autre coup de cœur, et là, ne perds pas connaissance, la Volkswagen e-Golf.
Ouais, Ben, j'en parlais
Hein?
justement avec Martin. On a enregistré une chronique avec Martin un peu plus tard que vous allez entendre après ça ici. Puis j'ai dit que c'était la voiture électrique qui t'a presque fait décider de t'en acheter une. Donc, c'est une voiture qui est quand même assez importante puis assez impressionnante, là.
Effectivement, en fait, l'avantage, c'est que c'est pas une soucoupe volante.
Ben,
Tu sais,
ça a l'air
t'es
d'une
pas
Golf.
obligé. Ça a l'air d'une Golf, ça se conduit comme une Golf, ça a le comportement d'une Golf. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu
Non,
sais,
c'est ça.
j'ai beaucoup aimé cette voiture-là, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle se comporte. J'ai reconnu là les petites allemandes agréables que l'on aime conduire. Bien sûr, c'est une voiture électrique, c'est vrai, je me suis fait suer avec la recharge parce que toutes sortes de raisons un peu étranges, puis je sais pas pourquoi là, je l'ai dit l'autre jour, la fée électricité m'en veut personnellement.
Ouais.
Je suis profondément convaincu de ça, mais n'empêche que c'est quand même une voiture qui est vraiment, vraiment le fun à conduire et qui, comme je te dis, l'avantage, c'est qu'elle ne demande pas de véritable compromis. Elle est capable de nous fournir ce qu'on s'attend d'une voiture, notamment d'une Golf, et 200 km d'autonomie pour quelqu'un qui fait de la ville, qui fait des petites distances, c'est amplement suffisant. Est-ce que c'est suffisant pour moi? Certainement pas. Ma femme, en revanche, pourrait très bien s'en accommoder. Écoute, c'est un véhicule qui, honnêtement, m'a presque convaincu de me tourner vers les voitures électriques. Je dis bien presque parce qu'il y a quand même des affaires un peu dérangeantes, là, mais ça fait quand même partie des choix. Et
C'est bon.
l'autre, la dernière coup de cœur, la Kia Niro.
Oui, je suis d'accord.
Moi, j'ai aimé ce petit véhicule-là.
Oui.
C'est un petit véhicule qui est sans prétention, qui est un hybride, qui fait 4,8 litres au 100 ou à peu près, qui se comporte très bien sur la route, avec lequel on n'a pas de difficulté, qui se prend pas pour un autre. C'est un petit multisegment qui est correct dans sa démarche. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le Kia Niro. C'est un petit véhicule très agréable et pas très dispendieux non plus, ce qui est quand même pas vilain comme approche, tu sais.
Ouais.
Moi, la Niro fait partie donc de mes coups de cœur de l'année. Bon, est-ce que vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner en version 100% électrique, mais déjà, je trouve qu'on a vraiment, vraiment fait un beau travail et j'aime de plus en plus les Kia et les Hyundai parce que je trouve que vraiment on fait des efforts, on s'organise vraiment pour être capable d'avoir un véhicule qui est bon rapport qualité-prix. Alors pour moi, ça c'est important et je pense que la Niro en fait partie.
C'est bon, moi
Voilà, mon cher.
je partage ça pour la Niro. C'est un des véhicules qui m'a aussi beaucoup impressionné cette année. Moi, je rajouterais la Cadillac ATS-V que j'ai adoré conduire. C'est
Ouais, moi, j'ai eu
une
juste la
bête.
TS hier.
Ouais, c'était une bête. Puis des choses que j'ai conduites au test fest de l'Ajac, la Porsche 718 Boxster, puis je te dirais le Porsche Macan m'ont beaucoup aussi impressionné dans leur catégorie. Puis je te dirais
Excellent.
la Mazda MX-5 RF que j'ai aussi beaucoup aimé là.
Mais tu remarqueras que de tous mes choix, il n'y en a pas un ou à peu près pas en haut de 50 000.
Non, 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 c'est bien parce que c'est ce qu'on peut se permettre, c'est ce que les gens peuvent se permettre.
C'était ça l'idée. C'est sûr que j'aurais pu aller, comme tu dis, bon, la Boxster 718, c'est une superbe voiture. J'ai conduit la McLaren 570 GT. Ouais, là.
C'est clair.
Tu sais, là, je peux te dire que oui, puis tu l'as vu, tu étais avec moi.
Oui.
Écoute, c'est une méchante bête, là. Mais je pense que, bon, pour des raisons de parce qu'on est raisonnable, j'ai décidé d'aller dans des plus petits formats et je pense que ça s'en est un.
C'est super. Donc, Marc, on va faire une petite pause. On va revenir avec la chronique voiture électrique avec Martin Archambault. Puis ensuite, ben, on va revenir et on va terminer l'émission avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure d'aller rejoindre pour la dernière fois de l'année notre spécialiste en véhicules électriques, Monsieur Martin Archambault de l'AVEC. Salut Martin.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ben moi, ça va bien. Pour les amateurs d'auto électrique, là, tout ça juste avant Noël, on a comme eu notre petit cadeau de Noël.
Ben oui, parle-nous de ça. On a eu aujourd'hui quelques réactions face au fait que la loi zéro émission va être mise en œuvre en 2018.
Et oui, c'est remarque que c'est un secret de polichinelle. Là, on savait que le projet de loi avait été déposé, que la majorité, la quasi-totalité en fait des gens là, au gouvernement étaient pour cette loi-là. Il y a eu des petits ajustements, il y a eu des tractations évidemment, que ce soit les concessionnaires automobiles, les manufacturiers, bon, qui avaient réagi un peu, qui avaient émis certaines réserves. Le gouvernement a joué un peu avec les objectifs puis les pourcentages là, de crédit au fil des années, mais au final, on arrive avec en bout de piste, parce que le programme va se mettre en place graduellement d'année en année, là, pendant quelques années, mais au final, on va arriver pas mal au même résultat que ce qui avait été entendu. C'est juste que la courbe au démarrage va peut-être être un petit peu plus lente que prévu, mais quand même, pour nous, à l'association, là, ça nous satisfait par rapport à ce qui avait été annoncé. Là.
Vaut mieux quelque chose que rien du tout. Puis oui, on peut commencer doux puis durcir un peu. C'est avec les années, un peu comme les Américains ont fait avec la loi café. Là.
Effectivement. Ouais. Puis c'est pas, tu sais, faut juste bien comprendre. Puis il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur cette loi-là. Là, moi, j'ai fait plusieurs interventions à plusieurs reprises pour essayer de rectifier le tir un peu. Faut comprendre dans un premier temps que c'est pas une loi contre quelque chose, c'est une loi pour d'autres choses. Là. Donc c'est forcément on se base sur le principe là, d'aller chercher des crédits en vendant des voitures zéro émission, des crédits qui sont compensés, qui compensent ou qui annulent là, les crédits qui sont générés par la vente de voitures à essence. L'idée, c'est pas que les concessionnaires vendent moins d'auto à essence et qu'ils puissent vendre plus de voitures électriques. On sait que au moment où on se parle, c'est pas comme si la majorité des concessionnaires avaient plein d'auto électriques dans leur showroom puis pas capables de les vendre. C'est plutôt l'inverse. Ils ont des listes d'attente puis des gens pas capables de s'en procurer.
Oui, mais ça, est-ce que c'est la faute des concessionnaires ou c'est plus la faute des constructeurs parce qu'ils sont pas capables d'en avoir?
Effectivement, tu as tout à fait raison. Puis quand on parle avec je parle avec plusieurs concessionnaires régulièrement quand il y a des salons de l'auto puis tout ça, puis c'est les premiers à dire si on en avait, on en vendrait, on essaie d'en avoir. On nous apprend que pour l'année prochaine, je parlais avec un concessionnaire Volkswagen qui me disait pour l'année prochaine, on m'a dit que j'en aurais 8. Mais parce que ma liste d'attente est immensément plus grande que ça. Là. Moi, mes 8, ils me les livrent le 2 janvier, puis le 3, j'en ai plus. Là. Ouais. Fait que c'est pas. Effectivement, c'est pas les concessionnaires, c'est vraiment. Et la loi vise pas les concessionnaires, la loi vise les manufacturiers, c'est-à-dire qu'elle demande aux manufacturiers de rendre disponible, évidemment, un manufacturier savant via un réseau de concessionnaires, de rendre disponible les véhicules zéro émission et d'en vendre pour aller chercher des crédits, basé sur un principe que ben un véhicule va donner un certain nombre de crédits, 1, 2, 3 crédits en fonction de son autonomie. Plus le véhicule a une autonomie électrique qui est grande, plus il va valoir de crédits. Ce que ça veut dire, c'est que pour un nombre de véhicules à essence donnés vendus dans une année, ben le nombre de véhicules électriques qu'on devra vendre pour aller chercher équivaloir le nombre de crédits va être moins grand si on vend des voitures qui ont beaucoup d'autonomie que si on vend des voitures qui ont une faible autonomie. Donc, il y a des voitures qui donnent un crédit, il y a des voitures qui donnent deux crédits, comme une Nissan Leaf, là, ou des autonomies là entre, mettons, 150 et 220 km, on est plus aux alentours de deux crédits. Puis quand on tombe avec des Chevrolet Bolt, ben là, on est plus aux alentours de trois crédits.
Okay.
Donc, un concessionnaire qui vend ben de la Bolt, ben il va gagner beaucoup de crédits, il va gagner des crédits beaucoup plus vite, fait qu'il va aller chercher son nombre de crédits qu'il a allé chercher beaucoup plus rapidement qu'un concessionnaire qui vend de la Leaf. Ce qui, on regarde comment ça se déroule actuellement, c'est un peu logique parce qu'il y a immensément plus de livres disponibles. Les concessionnaires Nissan vendaient, en tout cas quand il y en avait en stock, des livres en plus grande quantité que des Bolt qu'ils ont reçus au compte-gouttes. Mais justement, si on veut être capable d'atteindre le quota, ben, il faudra les rendre disponibles plus vite qu'au compte-gouttes si on veut être capable d'aller chercher le nombre de crédits voulus là, pour ne pas avoir à payer de pénalité.
Bon, est-ce que les fabricants vont entrer dans le jeu, par exemple? Est-ce qu'ils vont vouloir danser avec le gouvernement pour cette loi-là? Est-ce que ça va faire que Volkswagen, le concessionnaire qui s'est fait dire ben, « L'année prochaine, tu vas en avoir 8, mon ami. » Puis lui, il dit « ben moi, ça m'en prendrait 24, mon ami. » Puis est-ce que cette loi-là va faire que Volkswagen va devoir livrer plus que 8 véhicules à ce concessionnaire-là?
En fait, c'est ça. T'sais, c'est que si tu écoutes les manufacturiers, parce qu'il faut comprendre que ça vise les manufacturiers, non pas les concessionnaires. C'est pas les concessionnaires qui ont des quotas, c'est le manufacturier. Donc, pour la province, le manufacturier doit vendre X centaines de voitures zéro émission pour avoir le droit de vendre ces 15 000 ou 30 000 véhicules à essence qu'il vend par année, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est au volume. Donc, il devra s'assurer. Si on prend, par exemple, le cas des véhicules qui donnent un nombre de crédits, là, qui donnent, par exemple, 3 crédits, ben un manufacturier qui vend 30 000 véhicules par année devra aller vendre un nombre de véhicules là, tout électriques, dans le fond, là, égal à peu près 950. Donc, pour vendre 30 000 véhicules à essence, c'est à peu près 950 véhicules tout électriques. Dans son 950, il n'est pas obligé de le vendre de façon égale dans tous ses concessionnaires. Il pourrait très bien cibler, je ne sais pas, moi, au Québec, 10 ou 12 concessionnaires, puis en faire des concessionnaires spécialisés en véhicules électriques et leur en donner énormément, comme il pourrait le répartir de façon tout à fait arbitraire entre ses différents concessionnaires. Par contre, au Québec, ils devront en vendre 950 s'ils veulent aller chercher les crédits nécessaires pour avoir le droit de vendre 30 000 véhicules électriques sans avoir de pénalité. Véhicules à essence, 30 000 véhicules à essence sans avoir de pénalité. Fait que c'est un peu ça le principe. S'ils ne réussissent pas à équilibrer, s'ils ne vendent pas assez de véhicules zéro émission par rapport au nombre de véhicules à essence qu'ils vendent, ben ils auront une pénalité à payer. Ou alors, et c'est ça qui est la twist, ils auront le droit d'acheter des crédits non utilisés par d'autres manufacturiers. Par exemple, Nissan, qui vend beaucoup de Nissan Leaf, qui aurait, par exemple, 950 véhicules à vendre, mais qui en vendrait, je dis n'importe quoi, 2000 dans l'année, mm-hmm. Ben les autres, ils ont comme 1000 crédits de trop là, par rapport à ce qu'ils ont de besoin. Ils pourraient très bien dire, ben, nous autres, on sait qu'on va en avoir, on va être capable d'en générer des crédits. Fait que ce 1000 crédits-là de plus, ben je le vends. Alors là, on peut très bien penser que Volkswagen qui n'aurait pas vendu assez, ou encore pire, Mazda qui ne peut pas en vendre parce qu'il n'y en a même pas dans son offre.
Ouais, ou Chrysler qui a juste la Pacifica hybride.
Exact. Puis vu que c'est une voiture qui n'a pas beaucoup d'autonomie, elle ne donnera pas beaucoup de crédits. Fait qu'il faudrait qu'ils en vendent une tonne pour être capable d'aller chercher ses crédits. Ils vont dire, bon, ben, on va te les acheter. Et là, il y a une bourse du crédit, c'est-à-dire qu'à ne pas confondre avec la bourse du carbone, là, c'est une autre affaire. Mm-hmm. Il y a une bourse du crédit qui va faire en sorte que là, il va y avoir une négociation. Volkswagen pourrait dire « je t'offre tel prix », puis Mazda pourrait dire « ben moi, je t'offre 30% de plus ». D'une part. D'autre part, pensons à Tesla qui, eux, vont générer énormément de crédits parce qu'ils vendent beaucoup d'autos juste électriques à grande autonomie, mais qui n'ont rien à foutre de ces crédits-là parce qu'ils n'ont pas d'auto à essence qu'ils doivent essayer de balancer. Ils n'ont pas de voiture à essence, donc ils vont tous vendre le crédit. Eux autres, ils n'en utiliseront même pas.
C'est ce qu'ils font déjà aux États-Unis. Avec la norme café, ils vendent déjà leur crédit de voitures électriques à d'autres manufacturiers parce qu'ils n'en ont pas de besoin, c'est ça? Ils n'ont aucune voiture à essence.
Tout à fait. Fait que c'est bien certain que dans un contexte comme celui-là, on sait très bien que c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire que les manufacturiers qui vendent beaucoup de voitures électriques, Tesla évidemment, mais également il y a certains, Kia en vend pas mal dans une année, Nissan en vend pas mal dans une année, GM commence à en vendre pas mal, là, la Volt, la Bolt, ben là ça commence à faire pas mal de volume. Eux risquent de s'en sortir assez bien. Et sachez aussi que c'est rétroactif depuis 2014, c'est-à-dire que ce qui était vendu en 2014, 2015, 2016, 2017, ben compte. Donc, il y a des compagnies là-dedans qui en vendent depuis longtemps. Donc, ils vont être comme récompensés pour avoir été des précurseurs et ils auront des crédits en banque qu'ils pourront réutiliser dans les années subséquentes ou alors les vendre à ceux qui n'en ont pas assez.
OK. Parce Chevrolet avec sa Volt, puis Nissan avec la Leaf qui est ici depuis quoi, 2012 au Canada?
2011.
Oui, mais les 2011, c'était des Canadiennes?
Ouais.
OK.
Oui. Il y a eu des Canadiennes vers la fin. Mais c'est surtout des 2012, tu as raison. Là, le volume, c'est 2012, 2013, 2014.
Donc, tu sais, ces deux compagnies-là sont en avance des autres. Kia est arrivé un peu tard. Hyundai vient d'embarquer de manière assez agressive dans cette danse-là, là, parce que la Ioniq, on s'entend que c'est un véhicule qui est qui est plutôt performant, puis que j'aime beaucoup aussi. Mais ouais, ouais c'est ça. Mais ça va être de voir comment est-ce qu'ils vont réagir, parce que c'est un peu dommage que Volkswagen, qui a un des bons véhicules électriques avec la Golf.
Tout à fait, là, on est d'accord.
Tu sais, la vendre encore au compte-gouttes ici, puis c'est drôle à dire, parce que sur l'émission de la semaine passée, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mais toi, je sais que toi, Martin, t'étais pas là, Marc a presque viré son capot de bord à cause de la E-Golf. Il a adoré la E-Golf, il en a même parlé à sa femme, ça serait peut-être une idée qu'il s'en achète une. Tu sais, fait qu'on s'entend-tu que c'est un véhicule qui est quand même assez impressionnant? Si, tu sais, Marc n'est pas anti-voiture électrique, Marc a certaines réserves, mais pour qu'un gars comme Marc décide que, ouais, mais ça pourrait peut-être être ma prochaine voiture, ça pourrait avoir de l'allure. On s'entend que c'est une voiture qui est quand même marquante, là. Mais c'est ça, malheureusement, c'est qu'il n'y en a pas. Puis c'est ça que j'ai dit, mais Marc, même si t'en voulais une, bonne chance, parce qu'il n'y en a pas, tu sais. C'est dommage. Mais oui, j'ai hâte de voir si ça va augmenter la disponibilité, parce que oui, on dit, tu sais, il y a des listes d'attente, puis il y a des gens qui en veulent et tout ça. Faut que les gens puissent en acheter. T'as beau vouloir des crédits carbone, si des crédits de voitures électriques, je veux dire, si t'en as pas des concessionnaires, t'es pas capable d'en vendre parce que t'es pas capable d'en livrer. Tu sais, ça va être un peu bizarre, puis il va y avoir bien du monde qui va être dans des mauvaises postures. Ouais.
Tout à fait. Moi aussi, mais en tout cas, c'est certain que c'est un règlement qui fait réagir. Par contre, si on se décolle un peu le nez sur l'arbre, on regarde les autres endroits dans le monde où ça s'est fait, parce que ça se fait ailleurs, mm-hmm. dans d'autres pays ou dans certains États américains, mm-hmm. d'une part, il n'y a pas eu une baisse ou une problématique, ou soit une baisse de vente ou une hausse de prix des voitures à essence, parce que plusieurs ont peur à ça, puis en tout cas, ailleurs, ça ne s'est pas du tout produit. Puis il y a eu une augmentation minime, là, vraiment substantielle de l'offre, parce que les manufacturiers, ne voulant pas payer les amendes, ben rendent les voitures disponibles. Puis je peux pas parler pour ailleurs parce que j'ai pas là, sous les yeux les statistiques comparatives de comparatifs de l'offre et de la demande. Ce que je sais, parce que je suis confronté à ça au quotidien, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire que s'il y avait plus de Chevrolet Bolt, s'il y avait plus de Hyundai Ioniq, s'il y avait plus de e-Golf, elle se vendrait, là. Tu sais, là, il faudrait qu'il en mette pas mal sur le marché pour qu'on atteigne le fond du baril des consommateurs qui sont en attente ou qui sont désireux d'avoir ces voitures-là. Actuellement, je donne régulièrement des conférences, puis depuis 6 à 8 mois, je réponds plus à des questions sur comment gérer le manque de disponibilité, puis je devrais-tu attendre, puis faut-tu que je me mette sur une liste, puis je devrais-tu aller l'acheter dans une autre province ou dans un autre aux États-Unis. C'est le genre de questions qu'on me pose plutôt que de me poser des questions sur les voitures en général. Donc, on le sent, là, c'est criant. Les gens en veulent, puis il n'y en a pas. Fait que si on a un moyen d'augmenter un peu l'offre, ben donnons-nous la chance de l'expérimenter. Là. Ça va entrer en fonction en 2018. On va voir un peu ce que ça va donner, mais moi, je prédis que ça risque de fortement de démontrer, donc d'atteindre son but, une augmentation de l'offre, puis en bout de piste, ben, c'est des consommateurs qui vont être heureux, des manufacturiers qui vont être capables et qui n'auront pas le choix de rendre disponibles des véhicules, puis ces véhicules-là vont pouvoir se vendre, puis ça ne changera pas que celui qui ne convient pas à une auto électrique, il ne l'achètera pas plus pour autant, il va acheter l'auto à essence dont il a besoin, ouais. Mais celui qui en veut une électrique, ben au moins, il y aura l'opportunité d'être autrement servi qu'en se faisant dire ben c'est au moins 8 mois d'attente.
Ouais, c'est ça. Non, puis c'est ça. Puis présentement, il y a un peu un buzz alentour de la voiture électrique. Ça, c'est plus connu que c'était. Puis avec le salon de l'auto de la voiture électrique de Montréal, le salon de la voiture électrique de Saint-Hyacinthe, des choses comme ça, mais ça permet aux gens d'aller voir les voitures électriques, pas nécessairement chez un concessionnaire. Parce que oui, il y en a au salon de l'auto, mais là, tu as des salons spécialisés avec des gens spécialisés qui savent de quoi ils parlent. Ça va rendre la chose encore plus facile à comprendre.
Qu'il y en ait dans le showroom, hein. T'sais, nous autres, on se fait souvent dire on est content que l'association, vous ayez un programme de jumelage ou encore que vous ayez des événements. On peut les voir, on va chez nos concessionnaires, puis ils n'en ont pas dans le showroom. Ils font venir si quelqu'un la commande, puis là, ben, la commander, c'est parce que ça a l'air qu'il y a une liste d'attente, puis il n'y en a plus chez le manufacturier, donc ils n'en ont pas. Puis quand ils l'ont, ben c'est le temps de la préparer, puis le client vient chercher, puis le lendemain n'est plus là, tu sais. Fait que ça reste pas, fait que les gens sont pas capables d'en voir. Fait que c'est au moins un petit peu plus de volume, on est capable de démontrer un peu plus, on est capable de dire au client, ben oui, ça rentre pas, là, tu sais, il n'a pas 35 dans le stationnement, mais il en a deux, puis on entend une autre la semaine prochaine, puis deux autres semaines. Tu sais, qu'on sente que ça bouge un peu, qu'il y a du roulement, ben déjà là, on va être un petit peu moins sur le feeling de, on dirait qu'ils veulent pas nous en vendre.
Ouais. Super. Donc, c'est bon, Martin. On va voir ce que ça va donner en début d'année prochaine. En attendant, si les gens veulent te rejoindre ou avoir de l'information, comment font-ils cela?
Ils peuvent me rejoindre par courriel à martin@aveq.ca ou encore visiter le site web de l'association www.aveq.ca.
Ou écouter ton podcast qui s'appelle Silence, on roule.
Tout à fait. Il y a plein d'informations là. D'ailleurs, on parle en masse de la loi zéro émission.
Super. Donc, merci, Martin, d'avoir fait ça avec nous encore une fois cette année. Puis je te souhaite un super temps des fêtes avec ta famille, puis on se reparle en début d'année prochaine.
Ben merci beaucoup, toi aussi, des joyeuses fêtes, puis à tous tes auditeurs là, qui sont très nombreux. Passez des joyeuses fêtes, puis au plaisir de se reparler en 2018.
Super Martin, merci.
Ciao.
Bye. Alors, nous sommes de retour pour le dernier bloc de la dernière émission de cette année 2017. Marc, qu'as-tu pour nous comme dernier essai de l'année?
La Volkswagen Passat.
OK, que je t'ai supposé essayer cette année, puis finalement... Volkswagen me l'a cancellé parce qu'ils ont eu un événement puis ils retiraient toutes les voitures pour la semaine que j'avais la Passat, donc je l'ai pas essayé.
Écoute, autant j'ai aimé la Volkswagen Golf électrique, autant la Passat m'a déçu.
Ah, OK.
J'ai eu la Passat dans les conditions un peu plus hivernales, quand il y a eu la petite tempête et tout, là, je l'ai conduit pendant quelques jours là-dedans. Mm-hmm. Et honnêtement, j'ai vraiment pas été impressionné. C'est une voiture que j'ai trouvée sous-motorisée, elle a 177 chevaux. J'ai trouvé ça sous-motorisé. J'ai vraiment pas eu tant de fun que ça. Le contrôle de traction est excessivement sensible.
Est-ce que c'était une 4 roues motrices? T'as-tu une version all-wheel drive ou non?
Non.
OK, traction non. Avant. Okay.
C'est ça. C'est excessivement sensible. Honnêtement, j'ai pas été impressionné. J'ai été impressionné de la voiture comme telle. L'espace qu'elle nous propose, tout ça, là, ça, c'est oui, ça, j'ai rien à redire là-dessus. Mais sincèrement, pour le reste, j'ai pas été... C'est sûr qu'on a... Maintenant, la Passat, elle est assemblée entièrement aux États-Unis et elle est conçue pour les États-Unis. Mm-hmm. Donc, on la crée vraiment pour les Américains, des gens qui ont besoin d'un peu plus d'espace, je te dirais.
Ouais.
Alors ça, c'est la partie qui m'a dérangé profondément. J'ai vraiment pas aimé ça.
Mais c'est un design qui est un peu sans couleur et sans saveur. Là. C'est un peu ordinaire.
Exactement.
Ouais,
sans couleur, sans saveur, c'est effectivement la meilleure description qu'on peut en donner. C'est sûr que c'est une voiture, tu sais, qui est plus américanisée, plus embourgeoisée, qui a plein d'autres bons côtés probablement. Mais moi, honnêtement, je trouve qu'on a perdu le plaisir de conduire que la Passat nous procurait auparavant. Je trouve que vraiment, on est dans un autre monde. Et je trouve ça un peu dommage.
Est-ce qu'en l'américanisant, on aurait perdu le petit côté allemand de conduire,
oui,
le petit plaisir?
Clairement.
OK, c'est ça.
Clairement. Tu sais, honnêtement, là, on s'est rapproché davantage, je te dirais, de ses compétiteurs comme l'ancienne Camry puis la Honda Accord.
Okay.
Alors que les autres se dynamisent, eux autres, je trouve qu'ils se sont vraiment là, lancés dans un autre monde. En tout cas, bref, c'est pas une mauvaise voiture, loin de là, très spacieuse, c'est agréable quand même. Mais honnêtement, dans la neige, j'ai pas été impressionné outre mesure. Remarquez, il y a peut-être une question de pneus aussi, là, mais j'ai pas été impressionné outre mesure.
Okay.
Pour le reste, écoute, c'est une voiture qui est bien assemblée, qui est correcte, qui n'a pas vraiment de problème, mais la Passat, à mon sens, on dirait qu'elle vieillit. Et j'ai très, très hâte de voir la nouvelle Jetta qui va être dévoilé là, au salon de Détroit dans quelques semaines.
Okay.
Donc, j'ai très, très hâte de voir cette nouvelle Jetta-là dont on a vu quelques photos espions. Là. Donc, ça, j'ai bien hâte de voir. Là. Mais pour le moment, honnêtement, moi, la Passat, c'est vraiment pas dans mes coups de cœur de l'année. Et parce que j'ai l'habitude d'être un peu bougon, tu sais, sur bien des affaires, mm-hmm, t'es pas obligé de répondre.
Non, mais on le sait tout, là, c'est correct. Moi et les auditeurs sommes au courant.
C'est cela. Mais sérieusement, j'ai donc fait le choix de laisser conduire mon épouse à un moment donné pour dire, garde, je veux qu'elle l'essaye. Tu sais, elle les essaye pas mal toutes les voitures que je conduis, là, parce que souvent on est ensemble puis je la laisse conduire ou bon, des trucs comme ça.
Ouais.
Et même comme passagère, bon, elle les essaye toutes. Donc, je voulais avoir son impression et honnêtement, elle a vraiment, vraiment pas aimé, là. Elle m'a rendu le volant très, très rapidement. Pour elle, c'était pas du tout une option. Là,
OK, ouais, c'est ça. Mais c'est bon d'avoir une deuxième opinion des fois. Des fois, on se fait une idée sur une voiture, puis c'est le fun que quelqu'un la confirme ou nous dise non, t'es dans le champ.
C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle le fasse. Puis honnêtement, j'ai pas regretté là, parce qu'elle a amené le même genre. C'est drôle parce que c'est le même genre d'éléments que moi j'avais j'avais dans la tête, mais je n'avais pas soulevé. Donc, le fait que bon, la tenue de route n'est pas si bonne que ça, que le contrôle de traction est toujours en marche, tu sais, là.
OK.
Alors non, c'est vraiment, c'est pas ma star du soir, je te dirais.
C'est bon.
Et toi, mon cher, t'as essayé quoi?
Ben moi, je suis au volant d'une voiture que t'as été mon chanceux au lancement. Chose que j'aurais aimé, surtout que c'était à Montréal, c'était pas tellement loin. La Hyundai Accent 2018.
Oui.
On avait parlé, puis justement, tu sais, quand tu avais fait l'essai, tu avais été déçu de la consommation d'essence. Tu avais dit, ah, ça consomme un peu trop, j'aurais aimé que ça devrait consommer moins, vu que c'est plus petit qu'une Elantra, puis ça consomme presque autant qu'une Elantra. Puis tu n'avais pas eu une bonne consommation, mais tu l'as essayé tellement sur un court laps de temps. C'est un peu comme les essais qu'on fait au Festival des essais de la Jacques. Hein. C'est tellement court. Puis, tu essaies tellement la voiture, tu vas essayer les accélérations, les reprises et tout ça. C'est pas bon pour la consommation d'essence, ces choses-là.
Non.
Fait que c'est dur d'avoir un bon chiffre de consommation. Moi, j'ai terminé ma semaine à 6,5 litres au 100 km. Donc, qui est normal.
Oui, mais c'est pas exceptionnel pour une sous-compacte.
Non, mais c'est quand même bon. C'est quand même bien si on compare à d'autres voitures qui sont pas hybrides, dans la même catégorie. On va rarement chercher plus bas que ça. J'ai eu plus bas que ça dans le Kia Niro, mais c'est un hybride. Dans des voitures hybrides, la Prius Prime, des choses comme ça, tu vas avoir une consommation plus basse que ça. Mais
oui.
Je veux dire, je suis pas nécessairement déçu de mon 6,5 litres au 100 km là, pour ce véhicule-là. J'ai beaucoup aimé son attitude sur la route. L'agrément de conduite est quand même là. Le moteur est quand même puissant. C'est un petit 4 cylindres, 1,6 litres de 132 chevaux, 119 lipiers de coupe. Bon, c'est pas... Tu sais, on ressent pas une puissance incroyable quand on décolle d'un stop ou d'une lumière. Là. Je veux dire, c'est juste 119 livres-pieds de coupe. Mais on manque jamais vraiment de puissance pour dépasser des choses comme ça. C'est une voiture que j'ai trouvée vraiment agréable. Puis même sa tenue de route est bien. Le confort est là. C'est quand même assez spacieux. Le coffre est surprenamment grand pour une petite voiture. Mais là, il faut se le dire, elle n'est pas si plus petite que ça qu'une Elantra non plus. Là. Ils l'ont grossi quand même un peu. Mais c'est une voiture qui...
Oui, hein, c'est assez imposant comme différence.
Oui, c'est quand même plus gros. Puis c'est drôle parce que au travail, j'ai deux personnes qui ont des Elantra 2017 et 2018. Donc, on pouvait voir là, qu'il n'y avait pas une si grosse différence que ça. Autant dans le look de la voiture que dans sa taille. Là. Mais c'est une voiture qui, je trouve, se sort bien de tout ce qu'on peut lui demander. Je suis allé faire de l'épicerie avec elle, puis j'en ai mis du stock dans le coffre, là, des sacs réutilisables. Je pouvais en mettre, il n'y avait pas de problème. On est allé se promener, toute la famille, puis tout le monde avait de l'espace, c'est sûr. Les personnes assises en arrière de moi étaient un petit peu plus serrées, mais quand même pas tant que ça. Là. J'ai pas embarqué quelqu'un de 6 pieds et plus, pas comme ton gars. Mais j'ai embarqué des gens qui, tu sais, des dames un peu plus petites, des choses comme ça, mais ils ont jamais dit que c'était pas confortable, puis qu'il y avait pas de place. Puis, tu sais, c'est une voiture que le monde a trouvé jolie aussi. Du monde au bureau, ah, elle est belle, c'est quoi ça? Mais c'est le nouvel Accent 2018. Ah, tu sais, elle est beaucoup plus belle que l'ancienne. Ben oui, on a travaillé la calandre, on l'a... On y a donné un look un peu plus cossu, un peu plus design. Là. Ça fait plus riche comme calandre puis comme design que l'ancienne voiture qui avait une petite calandre, là, une petite grille. Là, c'était vraiment pas... ça sortait pas du lot. Là, c'est vraiment beaucoup plus joli.
C'est littéralement une bébé...
Bébé Elantra.
Bébé Elantra.
Ouais.
Littéralement. Et
ouais.
Je trouve ça extrêmement intéressant comme concept parce qu'ils ont vraiment bien réussi. Puis je l'avais dit, spacieuse. Écoute, je te l'ai dit, là, moi, j'ai pas. Ça fait longtemps que j'ai perdu ma taille de jeune homme. Là.
Très, très longtemps.
Puis, t'es tellement pas obligé d'insister. Là.
Mais là, je suis d'accord avec toi, tu devrais être content.
Oui, mais c'est correct. Il y a des affaires que tu as le droit de ne pas être d'accord.
Ah, OK.
En tout cas, mais j'étais avec un collègue caméraman qui, excuse-moi Louis, mais bon, est encore plus imposant que je peux l'être. Là. Et vraiment, c'était vraiment, vraiment quelque chose. On a passé la journée dedans, puis jamais on s'est senti coincé, jamais on s'est senti à l'étroit, jamais. Tu sais, là. Ça a vraiment, vraiment bien été.
Oui. La seule chose que je dirais qui manque, c'est des... j'ai le terme anglais, des cup holders. Ça prendrait
des
porte-gobelets centrales en arrière pour les passagers. Il n'y en a pas. On a mis ça dans les portes, mais il n'y a pas de porte-gobelet au centre. Je vois pas nécessairement de raison de pas en avoir mis. Je comprends pas. C'est peut-être pas une voiture qui se vaut, tu sais, familiale, là, mais en étant pas si plus petite que ça qu'une Elantra, j'aurais pensé que des porte-gobelets centraux, ça, pour les passagers arrière, ça aurait été bien. Il y en a dans les portes, mais c'est pas la meilleure place pour mettre un jus pour un enfant ou des choses comme ça. J'aime autant un porte-gobelet central. Là. Fait que j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu. Pour le reste, ben c'est bien. Là. Bon, la seule chose que mon fils n'a pas aimé, c'est qu'il n'y avait pas de siège chauffant en arrière, mais il commence à être un peu gâté des fois. D'autres modèles, là, ben, tu sais, en avant, papa et maman ont les sièges chauffants, puis lui en arrière, il les a pas. Ça le déçoit un peu. Il aime ça quand on l'a. Mais bon, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux?
Attends, il y a 10 ans.
Il y a 11 ans, oui.
11 ans, ça va être beau, moi, qu'il se magasine une voiture.
Ah, ben ouais, mais là, il va les avoir les sièges chauffants en avant s'il veut une voiture. C'est à ce temps-là, ça va devenir de base sur toutes les voitures. Ça l'est presque aujourd'hui.
Fait que non, mais ça sera pas un problème. Déjà, il fait la Diva, ça va être de toute beauté.
Ouais. Ah, je sais pas. Pourtant, quoi qu'aujourd'hui, j'aurais de la misère à m'acheter une voiture, pas de siège chauffant. Franchement, en avant, là, siège chauffant, volant chauffant, pour moi, c'est pas mal le summum, ça me prend ça.
Ma femme utilise ça 12 mois par année.
Ouais.
Moi, idéalement, 3 coins de rue.
OK.
Après 3 coins de rue, je les éteins, puis je me dis que la journée où je voudrais me faire bouiller les hémorroïdes, je trouverais une autre solution. Je déteste ça. Volant chauffant, je m'en sers plus en hiver. Là. Les journées qui fait moins 17, je suis bien content de les avoir parce que je porte jamais de gants ou très rarement de gants quand je conduis. Mais sérieux, là, à part ça, là, écoute, la plupart du temps, c'est ma femme qui me dit « Ah, les sièges chauffants sont pas de bonne qualité » parce que moi, je les ai à peine remarqués.
Mais des fois, on dirait que c'est mal, tu sais, d'un véhicule à l'autre, c'est mal balancé. C'est qu'il y en a qui viennent trop chaud, trop vite, puis il y en a qui viennent pas assez chaud, ou il y en a qui ça prend vraiment, vraiment du temps avant que ça vienne chaud. Fait que c'est pas toujours pareil. Il y a c'est comme des volants. Il y a des volants que tu pars le volant chauffant, puis après un certain temps, tu l'arrêtes parce qu'il est juste trop chaud. Ça devient inconfortable. Ouais. Surtout, puis c'est pas toujours à la même place. Tu vas trouver des places sur le volant où ça devient vraiment plus chaud. Puis si tu mets tes mains là, c'est vraiment inconfortable. Puis t'as d'autres volants qui deviennent chauds. T'en as qui restent allumés tout le temps parce que t'as décidé que tu voulais le volant chauffant, puis le volant chauffant reste allumé. Puis t'en as qu'après un certain temps, ça s'éteint.
Oui. Fait que c'est sûr que ça, c'est variable. Là. Ouais. Mais je t'avoue que je suis pas un fan. Volant chauffant, beaucoup plus. Volant chauffant, ça, je m'y habituerais. Là.
Ouais, mais surtout une voiture qui a des sièges en cuir. Je me dis, des sièges en tissu, c'est un peu moins pire. Mais un véhicule qui a des sièges en cuir l'hiver, là, c'est à moins 30 dehors, c'est frette en titi pour l'arrière-train. Ouais.
C'est ça.
Mais bon.
Enfin.
Fait que voilà, c'est bon. Fait que j'ai beaucoup aimé. Je regarde sur le site de Hyundai, il n'y a pas encore de prix de sortie. On parle encore de l'Accent 2017 sur le site de Hyundai Canada. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de prix, mais j'imagine que ça va jouer aux alentours de la voiture l'année passée. Selon ce que je vois, c'est que le prix de base a monté de 3 000 $, par exemple. Donc, le modèle de base partirait à peu près un petit peu en bas de 17 000 $. Puis après ça, ben, on va monter selon les options que vous allez prendre. Là. Mais je pense que c'est un bon petit véhicule. C'est quelque chose que si vous cherchez un véhicule pas trop gros, vous cherchez quelque chose qui a de la gueule, disponible en hatchback ou en modèle régulier avec un coffre ordinaire.
Mais pas tout de suite, le hatchback.
Non, ça va venir plus tard. Là. Mais,
le hatchback est supposé arriver en avril seulement.
C'est ça. Ben, vous allez avoir deux choix. Présentement, c'est celui avec le coffre régulier. Donc, c'est ça. J'ai bien aimé. Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre pendant le temps des fêtes, comment font-ils cela?
Ben écoute, mon blog, c'est toujours la meilleure façon. MarcBouchard.ca. Sinon, suivez-moi sur Facebook. Je vais probablement être beaucoup plus présent sur Facebook dans le temps des fêtes que je vais l'être sur mon blog. Je vous le dis tout de suite.
Bon, j'imagine. Hein?
Ou sur Twitter, Marc_Bouchard. Bien que pour être tout à fait franc avec vous, je m'en sers de moins en moins. Je suis plus sur Instagram. Bouchard_Marc. D'ailleurs, vous avez entendu japper mes chiens à plusieurs reprises dans cette émission-ci. Si vous voulez suivre mes chiens, c'est Pixel et Harvard. Pixel_Harvard sur Instagram. Ils ont aussi leur propre compte. Okay. Si jamais ça vous tente de suivre les niaiseries.
Je dirais, je ne les ai pas entendus.
Non, c'est parce que là, ils sont chez le toiletteur. Il faut que justement j'aille les chercher. Ça fait aussi partie des tâches que j'ai à faire aujourd'hui.
Ah, ben c'est ça. OK, c'est bon. Moi, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte Ça Roule Radio, qui est Ça Roule Radio. La page Facebook Ça Roule Radio, qui est encore Ça Roule Radio. Notre site web, saroule-radio.com. Notre adresse courriel, info@saroule-radio.com. Vous pouvez nous écouter à travers iTunes et Google Play. On est trouvable là. Et puis, à travers des radios Internet, il y a Radio H2O, il y a sportradio.ca et Radio Média Plus aussi. Marc, as-tu une voiture pour le temps des fêtes? Tu conduis quoi?
Je conduis la Mazda CX-9 pour les deux semaines, version signature avec les boiseries et tout et tout. Véhicule 7 passagers que j'aime beaucoup, qui ce matin, par contre, m'est apparu un peu lent au démarrage, mais il faut dire qu'il faisait très froid. Donc, on verra ce que ça va donner dans l'avenir, mais c'est avec ça que je me promène. Et toi?
Moi, j'ai pendant deux semaines jusqu'au 3 janvier, j'ai la nouvelle Hyundai Elantra GT. Donc,
j'aime cette voiture-là, vraiment, là. Très agréable à conduire.
Oui, je l'apprécie beaucoup. J'ai hâte de l'essayer sur une plus grande distance. À date, je l'ai eu dans le trafic et tout ça. Ma consommation d'essence n'est pas dans la norme présentement, mais ça va s'améliorer avec la grande route que je vais faire pendant le temps des fêtes. Donc, je veux souhaiter à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année aussi. On va se revoir seulement l'année prochaine. Passez un super beau temps des fêtes. Faites attention si vous conduisez. S'il vous plaît, ne consommez pas d'alcool ou trouvez-vous quelqu'un pour vous conduire.
Et lâchez votre téléphone.
Oui,
vous aurez tout le temps de vous en servir quand vous allez arriver à destination. On veut vous revoir, on veut vous entendre aussi l'an prochain. Et là, on vous le dit, si vous voulez nous écrire, profitez-en. On a eu quelques courriels au cours des dernières semaines. J'avoue que j'y ai pris goût. Alors, si vous voulez nous en envoyer, ça nous fera plaisir. Info à Ça Roule Radio. En attendant, mon cher Luc et à tous les auditeurs, un très, très joyeux Noël. C'est pas nécessaire de m'envoyer de cadeaux, même si c'est toujours bienvenu. Et surtout, une bonne année 2018 remplie de tout ce que vous désirez, mais qui est bon pour vous, parce qu'il y a des affaires que vous désirez qui ne seraient peut-être pas bonnes pour vous autres.
Exactement. Donc, même chose pour toi, Marc, à ta femme et aussi à ton fils. Et puis, je dis à tout le monde, on se reparle début 2018. Bye tout le monde.
Bye tout le monde.
We'll be right back.